Nous sommes de nouveau de tout cœur reconnaissant à Dieu de ce que nous pouvons nous réunir et que c'est encore le temps de la grâce et que nous pouvons encore sans être dérangés nous rassembler et aussi reconnaissant pour cela. Imaginez-vous, nous aurions eu une salle louée quelque part en ville. Où est-ce que nous pourrions jouer de la trompette? Où est-ce que nous pourrions garer les voitures? Où est-ce que nous pourrions servir ceux qui viennent à manger et pour se rafraîchir? Où est-ce que nous pourrions les héberger? Dieu, d'une manière merveilleuse, très merveilleuse, a pris soin pour tout. Et aussi, pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants et nous lui disons merci de tout notre cœur et de toute notre âme. Et vous, qui ainsi... comme ça, pour une nuit ou bien pour peu de temps, sont logés comme ça, en masse, dans des dortoirs. Alors, réduisez-vous encore plus quand vous rentrerez, retrouverez vos maisons. Alors, tout a un sens et nous voulons pour cela remercier le Seigneur. Nous nous réjouissons de ce que vous venez. Nous nous réjouissons de ce que la parole de Dieu est si précieuse pour vous. Elle est précieuse pour nous. Elle est devenue précieuse pour nous. Je ne sais pas ce que nous ferions encore sans cette parole. C'est notre vie. C'est devenu notre vie. Nous voulons ne pas non plus oublier qu'il y a des frères ici dans le service de la Belgique, de la France, de la Suisse, de l'Autriche, de la Pologne et peut-être aussi d'autres pays. Que Dieu vous bénisse particulièrement. À la fin, nous vous remettrons des salutations à tous et nous nous réjouissons déjà de la conférence de l'automne, le premier week-end en octobre. Et nous espérons que Dieu bénira encore plus et sera encore plus puissamment parmi nous. Et à chaque fois, n'est-ce pas, avec une nouvelle certitude, nous passons aux autres réunions. Nous attendons à ce que Dieu fasse de plus grandes choses. Comme ça, quand on passe et qu'on écoute les différents témoignages que le Seigneur appelle encore à sortir de congrégations, d'églises libres et révèle sa parole, alors on se réjouit nouvellement avec tous ceux qui expérimentent Dieu et tous ceux qui s'ajoutent nouvellement. Nous vous souhaitons très particulièrement la bienvenue dans le précieux nom du Seigneur. Il y a un frère qui disait comme ça, quelque chose de vrai. J'ai cherché la vraie église de Dieu. Ensuite, il l'a suivi. Et il a dit, et maintenant je l'ai trouvé. Et nous voulons, n'est-ce pas, être à la hauteur de ça, que vraiment, comme église de Dieu, nous soyons aussi vus ainsi de Dieu, qu'à ses yeux, nous sommes vraiment son église, considérée comme son église, à ses yeux, lui. Je crois que nous le sommes. Et nous sommes aussi assez sincères, comme déjà ce matin je le disais, que nous ne sommes pas encore là où Dieu veut nous avoir, mais nous avons un tel désir en nous d'arriver à ce point. Et Dieu répondra à ce désir. Nous avons un désir à ce que le nom du Seigneur soit glorifié, vraiment, qu'il soit honoré selon la parole de l'Écriture. Glorifie ton nom. Et la réponse a été, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Que ce mot encore là puisse aller avec encore une fois. Hébreux 12, Dieu dit encore une fois, je n'ébranlerai pas seulement le ciel, mais le ciel et la terre. Encore une fois. C'est comme ça qu'aussi Simpson de son temps l'a dit, et c'est ainsi que nous le disons encore aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour de telles réunions. Et nous remarquons que l'Esprit de Dieu parfois reprend de la droite et de la gauche, et après nous constatons que c'était bien, ça touchait le but. C'était important pour que tous puissent entendre ce qui a été dit. Et parfois, nous nous étonnons. Oui, mais est-ce que eux, on doit écouter encore toutes ces corrections? Oui, Dieu sait toutes choses. Il connaît le besoin de chacun et il en parle. Et nous devons savoir que Dieu prend soin de chacun de nous individuellement. Il prend soin de toi. Il veut nous préparer et il sait ce dont nous avons besoin pour cela. Cette parole, je l'ai remarqué encore en relation avec le baptême. C'est écrit de manière si merveilleuse dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et ceux qui acceptèrent sa parole se laissèrent baptiser. Cela va ensemble. Tous ceux qui acceptèrent sa parole, tous ceux qui ont cru sa parole, qui l'ont prise au sérieux, ce qu'il a dit, se sont laissés baptiser. Et c'est ainsi que nous sommes aussi reconnaissants pour tous ceux qui aujourd'hui se sont laissés baptiser, et nous vous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu particulières et nous espérons que tous les autres qui ont encore une bataille à surmonter dans leur cœur, après une décision, qu'eux aussi, ils en soient vainqueurs et ainsi respecter Dieu et sa parole et la mettre à la première place et ne pas regarder aux autres, bien écouter, s'écouter ou bien écouter les autres, mais parler avec notre Seigneur. Ainsi, il nous appartient d'accomplir toute justice. Aucun homme regrettera après avoir fait la volonté de Dieu, de l'avoir faite. Bien au contraire, c'est écrit dans Hébreu de notre Seigneur. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est peut-être donc qu'il disait dans le livre, dans le rouleau du livre, il est écrit me concernant. Il est écrit de moi. Eux aussi, c'est la même chose avec nous. Il est écrit de nous. Il le disait autrefois dans son corps de chair, comme fils de l'homme. Pas ce que je veux, pas comme je le veux, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ce que disent tous les fils et les filles de Dieu, tant qu'ils sont encore ici dans la terre, et sur la terre, pardon, dans la chair. Que ta volonté soit faite. Et le penser sincèrement, et aussi certain que la volonté de Dieu nous a été révélée, alors l'obéissance suit. Et nous pouvons avec joie faire la volonté de Dieu, faire ce qu'il nous a ordonné. Mes bien-aimés, quand je pense à comment est-ce que les choses nous sont rendues difficiles de servir le Seigneur et de porter le message de salut dans le monde entier, tous en comparaison avec nous, ont une chose très facile. Le monde entier, les loups, le diable ne leur pose pas de pièges, etc. Ces grands évangélistes-là, qui sont populaires, avec des noms, ils sont honorés et partout, ils ont tous les moyens terrestres à leur disposition pour, n'est-ce pas, faire leurs propres affaires et leurs propres œuvres. Mais nous semblons suivre les traces des prophètes et des apôtres et de notre Seigneur lui-même et de porter son nom propre, de voir porter son nom propre. Je l'ai souvent dit, celui qui pense qu'avec le Seigneur et avec la parole de Dieu, il pourra être honoré, ça veut dire qu'il s'est trompé. Notre Seigneur pouvait dire, vous cherchez encore l'honneur auprès des hommes et vous êtes heureux d'avoir les premières places, mais vous refusez l'honneur qui vient du seul Dieu. Comment est-ce que vous pouvez servir Dieu si vous acceptez encore l'honneur des hommes? Hein? Il n'y en a qu'un seul à qui appartient l'honneur. Et ça, c'est notre Seigneur et notre Dieu. Tous les prophètes, n'est-ce pas, sont passés par des incompréhensions, par des chemins difficiles. Ils ont été persécutés, mal compris, incompris et rejetés. Mais ils portaient, n'est-ce pas, la semence précieuse de la parole de Dieu. Et alors que je parlais de ça ce matin, « Oh Dieu, ton Dieu, ta oint » dans Hébreu 1, alors j'ai pensé en relation avec cela à l'évangile de Jean dans le chapitre 10, là il est écrit « Et Dieu a dit de ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, vous êtes des dieux. » Jean 10. Et le Seigneur pouvait dire, comment est-ce que alors vous pouvez, n'est-ce pas, dire au Fils de Dieu qu'il blasphème, lui que Dieu a consacré. Alors, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes aussi une race divine. Nous sommes fils et filles de Dieu, d'une descendance divine. Et le frère Pézal a exprimé une pensée très précieuse, glorieuse. Si nous sommes enfants, alors nous sommes aussi héritiers. Héritiers, toujours. Vous savez, déjà dans le terrestre, il y a un héritage réglé dans la loi, n'est-ce pas? Les enfants directs reçoivent, n'est-ce pas, l'héritage selon le testament. Ça, c'est selon la loi, mais ils doivent prouver leur parenté. Ils doivent appartenir à ceux à qui cet héritage est attribué. Quand est-ce que cela se passe? Quand nous sommes de vrais enfants. Alors, nous sommes toujours héritiers. Quoi qu'arrive, automatiquement, les enfants sont héritiers. C'est automatique. C'est ainsi que, aussi vrai que nous sommes nés de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc pas de l'héritage céleste. Ne vous inquiétez pas. Par la grâce de Dieu, nous le recevons. Nous le recevrons. Il y aurait beaucoup de choses à dire qui devraient servir à éclaircir certaines choses. Mais vous savez, je ne veux plus parler des choses terrestres particulièrement, spécialement parce que ça ne sert à rien. On peut essayer justement de redresser et de corriger ce qui se passe, mais il y aura toujours des gens qui auront des esprits ou bien alors des intentions malhonnêtes qui portent en eux de la haine et de la jalousie et font que attendre pour trouver quelque chose pour pouvoir ensuite critiquer. Mais il y a quelqu'un, s'il vous plaît, ne prenez pas cela à la légère, mais ça s'ajuste ici. Il y a quelqu'un même qui disait, Dieu n'a pas laissé sur terre assez poussé de gazon pour boucher la bouche de chaque vache. Mais c'est ainsi. Il y en a qui doivent toujours critiquer, mais jamais. Ils ne se critiquent jamais, hein, mais toujours les autres. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils doivent toujours être en train de critiquer. Et je ne sais pas pourquoi c'est toujours moi qui suis la cible. Mais s'il vous plaît, attachez-vous bien. Tenez-vous bien. Les gens m'en veulent. Et Satan ne peut même pas me supporter. Depuis très longtemps, il ne peut même pas me voir. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas étonnant, je l'ai déjà dit ici. Celui qui ne l'a pas rencontré et qui n'a jamais eu de bataille avec lui, ça veut dire qu'il marche avec lui dans la même direction. Et que cela soit loin de nous. Mais quand cela arrive à ce point où des gens utilisent mon nom et font une grande annonce et disent que dans le journal, ils disent que je cherche une dame avec qui je veux faire la connaissance et puis même écrivent mon numéro de téléphone et que je sois même appelé et que je tombe comme des nus. Si alors les faux frères coupent l'article du journal comme ils l'ont fait avec l'article sur l'exposé concernant le titre de docteur et agrandissent la chose, alors les gens se demandent, mais est-ce qu'il est normal? Est-ce que cet homme est normal? Vous voyez, je dois supporter tout ça. Il n'y a rien que ces gens ne pourraient pas inventer. Ils se font même payer pour la chose. Et là, il y a une très jeune dame qui m'a appelé et elle m'a dit, je le fais parce que ma mère l'a dit de le faire. Je dis de faire quoi? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et est-ce que vous pouvez imaginer telle chose? Nous sommes déjà arrivés à ce point. Les gens dépassent toutes sortes de toutes mesures. Ce ne sont pas les incroyants. Les incroyants ont un bon sens, ont une conduite. Mais les croyants sont chevauchés par le diable et ils ne le savent pas. Mais je vais vous dire une chose. Celui qui est de Dieu ne va pas écouter toutes ces choses. Il saura exactement que ce sont des calomnies, que ça appartient à un vrai service à Dieu. Et un homme de Dieu doit supporter tout ça. Et je vais vous dire une chose. Si cela arriverait, comme avec le diplôme académique, un petit article comme ça, ils ont agrandi ça. Combien de fois ils ont envoyé ça dans le monde entier? Si cela arrive encore, alors qu'est-ce qui se passera? Les faux frères, n'est-ce pas, font qu'attendre de telles choses. Et malgré tout, je peux de tout mon cœur dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu les bénisse. Oui, oui, oui. Tu es étonné. Non, mais écoute, je le pense sincèrement. Je suis sincère. Que Dieu les bénisse. Je le pense de mon cœur. Que Dieu les bénisse. Cela sert à mon bien, à ma purification, à m'examiner moi-même. Dieu ne permet rien si ce n'est que cela serve à notre bien. Et heureux les hommes qui, n'est-ce pas, peuvent surmonter toutes ces choses, supporter tout cela, et malgré tout, avec un cœur sincère, souhaiter à tous ces gens les riches bénédictions de Dieu. Comment Dieu lui pense, ça je ne le sais pas, mais il y a une chose que je sais. Les élus vont jamais persécuter des élus. Celui qui appartient au corps du Christ, il est écrit qu'un membre sert l'autre, tend la main à l'autre. Un membre aide l'autre membre. Si nous appartenons au corps du Seigneur, alors nous nous servons les uns les autres avec le don que Dieu nous a donné. Et Paul écrit, le Seigneur ne nous a pas envoyés pour détruire, mais pour bâtir. Et Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous enseigne que Dieu a établi les services dans l'Église pour son perfectionnement, pour la conduire à la perfection. Et après que Dieu nous ait, n'est-ce pas, envoyé ce merveilleux message divin, nous pouvons le prêcher, le proclamer en lui faisant confiance, qu'il conduira toutes choses de manière merveilleuse et achèvera toutes choses de manière merveilleuse et fera toutes choses bien. Je voudrais lire une parole et ensuite continuer à lire de la prédication de frère Branham certaines citations. J'espère seulement que tous sont ici avec les cœurs ouverts et croient et font confiance et reçoivent, acceptent et sont bénis de Dieu. Je crois aussi que dans ces réunions, Dieu nous a parlé et nous a fait en sorte que certaines choses soient claires pour nous. Il nous a laissé voir les choses encore plus claires, certaines choses encore plus claires, clairement. Et nous lui en sommes pour cela très reconnaissants. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1. Ici, il est écrit au verset 5 et 6. Et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le dominateur des rois de la terre. Lui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et le pouvoir pour toute l'éternité. Amen. Voici qu'il vient avec des nuées. Les yeux de tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous voulons encore nous lever pour la prière. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta parole, pour la rédemption, pour chaque révélation, pour le salut de nos âmes, pour la délivrance de notre esprit, pour la guérison de notre corps. Nous te remercions, ô Seigneur, de ce que à Golgotha, tu as ramené l'homme à toi, ce qui s'était perdu par Adam, tu l'as ramené. Nous te remercions pour cela, ô Seigneur fidèle, que tu puisses maintenant, avec ton esprit, venir sur nous, être sur nous, nous conduire, conduis-nous pour parler, pour écouter, ô Seigneur, produire en nous, pendant que nous écoutons ta parole, Seigneur, ce que nous écoutons dans ta parole, pour que cela devienne une réalité divine en nous, pour que cela puisse devenir une réalité divine en nous. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour ce chemin étroit que nous pouvons entreprendre, suivre avec toi. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Quoi qu'arrive, je te remercie Seigneur, je te remercie de ce que tu nous as privilégié de porter l'opprobre du Christ, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Ta parole est devenue précieuse pour nous et nous te demandons, conserve-nous dans ta grâce et dans ta parole. Accorde aussi maintenant l'onction de ton esprit d'une manière si puissante pour que tous ceux qui sont affligés soient relevés, fortifiés, et que les genoux affaiblis soient fortifiés, et que les mains languissantes soient relevées, et que la mèche qui fume soit de nouveau enflammée par le feu de l'esprit, et que aussi le vent de l'esprit puisse souffler pour que le feu puisse faire brûler la lampe et que sa lumière soit portée. Oh, nous te demandons, sois parmi nous, celui qui parle, celui qui agit. Nous voulons voir personne et écouter personne, si ce n'est que toi et toi seul. Viens parmi nous, reçois ce qui te revient en plein droit. Atteins tes fins avec nous. Oh Seigneur, que le sang de l'agneau et la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu puissent produire l'effet pour lequel, l'effet des choses qui doivent encore arriver sur nous, en nous et à travers nous et parmi nous. À toi le Dieu vivant, nous te remercions de tout notre cœur pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais encore de l'évangile de Jean, 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 5, lire jusqu'au verset 8. 1 Jean, chapitre 5, du verset 5 jusqu'au verset 8. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus-Christ. Non dans l'eau seule, mais dans l'eau et dans le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a trois, en effet, qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois sont unis. Puis-je enlever ma veste? Merci. Quand nous observons la parole du Seigneur de cette manière et que nous en parlons, que Dieu a pensé à tout, je ne sais pas comment les choses vont pour vous, mais cela me touche. Plus profondément, nous sommes conduits dans le dessein du salut de notre Dieu et encore plus, cela me touche et me saisit. De voir la manière avec laquelle Dieu, si clairement, s'est exprimé dans sa parole que nous avons à notre disposition par sa grâce. Ce qui est merveilleux, c'est que nous ne l'interprétons pas, mais que nous la croyons telle qu'elle est écrite. Et nous la recevons et l'acceptons et la laissons agir en nous et produire ces choses en nous. Il y en a trois, en effet, qui rendent témoignage. Verset 7, il relit. Maintenant, le verset 8, l'Esprit, l'eau et le sang. Nous ne voulons pas ici en parler. Mais l'Esprit de Dieu nous conduit. Nous convainc. Et ce n'est pas important que cela s'agisse du baptême d'eau ou bien du lavage dans l'eau, de la parole. Les deux sont nécessaires, les deux sont bibliques et les deux sont justes et corrects. Le sang de toutes manières, ça c'est toujours écrit, ça c'est toujours fixe. Et c'est dans le sang que notre rédemption a eu lieu. C'est par le sang que la nouvelle alliance est rentrée en vigueur. Le testament est entré en vigueur, est valable quand la mort de Jésus-Christ a été prouvée. La mort de Jésus-Christ lui qui a fait ce testament, au moment où sa mort a été prouvée. Alors, à Golgotha, c'est à ce moment-là que le Nouveau Testament est rentré en vigueur. La parole du Nouveau Testament. Et Paul dit qu'un testament n'a pas encore d'effet tant que celui qui l'a fait vit. Et nous savons tous qu'au moment où le testateur meurt, celui qui a fait le testament meurt, alors tout ce qu'il a légué est accordé aux héritiers. C'est de ça que vient cette parole. Héritier de Dieu, héritier de Jésus-Christ. Pas seulement quand nous serons dans la gloire, mais déjà ici sur cette terre, nous avons la grâce de recevoir tout ce que Dieu en Christ Jésus nous a préparé. Et ça aussi, nous voulons le recevoir dans notre cœur. C'est nécessaire de reconnaître cet ordre biblique et de reconnaître comment est-ce que Dieu a joint les choses ensemble dans sa parole. Sinon, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Nous ne savons même pas tout ce qui nous appartient dans le testament. Tout ce que nous pouvons déjà maintenant recevoir, tout ce qui est écrit dans la Nouvelle Alliance, incluant les promesses de l'Ancien Testament, sont entrées en vigueur au moment où Christ Jésus, le Fils de Dieu, sur la croix à Golgotha, mourut. Et tout cela nous appartient. Et ici nous est dit que celui, ici nous est dit au verset 5, 1 Jean 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est notre confession de foi, de tout notre cœur, avec la pleine conviction. Le Père s'est révélé, s'est manifesté dans le Fils. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est de lui que, comme fils et filles de Dieu, nous sommes nés, nous avons été pris comme Ève a été prise d'Adam. C'est ainsi que l'épouse est sortie du côté de Jésus, de Christ. Elle est une partie de lui, elle lui appartient. Elle est sortie de lui, elle est prise de lui. C'est pour ça que nous croyons chaque parole de Dieu et nous acceptons chaque promesse qu'il a donnée dans sa parole dans la foi de tout notre cœur. Avec reconnaissance, je voudrais, avant de revenir aux Écritures, lire plusieurs citations importantes de cette prédication que nous avons déjà observées dans deux prédications, dans deux réunions. Le signe, ici à la page 24, il est écrit: le sang était le signe efficace que l'agneau était mort. Non une croyance faite, mais l'agneau était vraiment mort. Le Saint-Esprit est un signe efficace que l'agneau de Dieu est mort pour vous. Vous en avez reçu vous-même la preuve, car sa vie est en vous. Vous voyez, pas une croyance faite. Rien qu'on met en scène, qu'on présente. Pas une imitation. C'est juste là. Amen. C'est réel. Vous n'avez pas besoin de pomper, de produire des efforts. Non, la vie est là. Elle a été placée en nous. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage de la troupe rachetée par le sang, que la vie de Dieu est venue en eux. Puis-je demander? Vous n'avez pas besoin, personne n'a besoin de lever les mains. Mais avec oui, vous pouvez tous répondre. Qui croit de tout son cœur que la vie éternelle, d'avoir reçu la vie éternelle? Amen. 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 Si nous ne pouvons pas croire, alors nous mourons dans nos péchés. Mais si nous croyons, alors nous sommes passés de la mort à la vie. La foi est le moyen de transport, pas les œuvres. La foi dans l'œuvre accomplie de la rédemption de Jésus-Christ à Golgotha. Pas une foi, mais la foi. La foi en Jésus-Christ, notre Seigneur, en l'œuvre accomplie de la rédemption. À la page 29, il est écrit maintenant, citation: tout d'abord, son prophète est venu avec le message. Il s'est identifié avec son prophète en envoyant la colonne de feu parmi son peuple. Puis, il fit apposer le signe afin qu'il puisse passer sous le sang, car il avait accepté le sacrifice de substitution qui devait mourir à leur place. Le sang était la preuve qu'il vous regardait avec grâce. Vous avez entendu le message, cru en la colonne de feu, accepté le sacrifice de substitution qui vous a été offert. Donc, le sacrifice à votre place. Vous étiez sous le sang de la vie qui a été offert pour vous. Oh, quelle chose parfaite. Vous êtes sous le sang. Maintenant, vous êtes sous l'Esprit, sous le Saint-Esprit. Vous croyez au message de ce temps. Vous croyez au pouvoir, à la puissance, à la colonne de feu. Vous croyez et savez qu'il en est ainsi. Nous disons amen à cela. Amen. Nous avons reconnu que Dieu, dans tous les âges, a fait quelque chose. Et qu'il est resté fidèle à ses intentions avant de faire, à ses desseins, avant de faire quelque chose, il révèle ses secrets à ses esclaves serviteurs, les prophètes. Et celui qui reçoit un tel homme de Dieu, reçoit Dieu. Et celui qui le croit, croit Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons, dans ce temps, reconnaître que celui qui croit le message divin, la parole révélée pour ce temps, celui qui la reçoit, a déjà en cela la preuve que le Saint-Esprit l'a attiré et lui a révélé ce message. Car personne peut se procurer quelque chose, si ce n'est que cela lui ait été accordé par Dieu. Et un homme doit d'abord venir à Dieu et recevoir la relation avec Dieu pour ensuite recevoir ce fleuve de bénédiction par Dieu. Cela ne nous est pas accordé en sortant de nos manches par la lecture. Non, c'est par révélation que nous le recevons de Dieu. C'est ainsi que, tel que Dieu a révélé à ses esclaves serviteurs, toutes choses, c'est ainsi que ces choses doivent être aussi révélées à ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Tel que cela a été révélé à l'esclave serviteur, c'est ainsi que nous avons la grâce d'appartenir à ce groupe de personnes. Ici, la colonne de feu, la lumière, la nuée surnaturelle qui déjà était dans l'Ancien Testament, accompagnait et était avec le peuple d'Israël, alors que Saul, sur le chemin de Damas, était, n'est-ce pas, il a vu subitement une lumière éclatante, plus claire que le soleil qui brille à midi. Il a été aveuglé, ébloui par cette lumière. Nous lisons dans la Bible que Dieu habite dans une lumière à laquelle personne n'a accès. Dieu est lumière. Et Jésus disait même, celui qui me suit ne marchera pas, ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette pensée, nous l'avons, n'est-ce pas, déjà touchée ce matin. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une lumière éclatante, la lumière de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. La parole les a éclairés parce qu'elle leur a été révélée par le Saint-Esprit. Et nous qui savons ce que Dieu a fait dans notre temps, nous pensons volontiers, n'est-ce pas, au janvier. C'était exactement le 24 janvier 1950. Et que frère Branham parlait à Houston, Texas, dans ce grand amphithéâtre. Et que il y avait des photographes et des critiqueurs qui étaient là et qui ont fait des photos. Et le prochain jour, n'est-ce pas, pour pouvoir présenter des photos et écrire un article dans les journaux. Et cela s'est passé qu'à minuit, Mr. Ayers et Kep Kipperman, subitement, ils étaient à l'hôtel et ils ont dit, mais où est l'homme, William Branham? Et ils lui ont demandé, mais est-ce que vous savez que sur votre tête, une lumière surnaturelle était suspendue. Et il a dit, je le sais. Ça, c'est un témoignage pour vous, parce que vous n'avez pas cru ce que j'ai dit. Et ensuite, parce que c'était inhabituel, extraordinaire, la photo a été envoyée au chef de la police judiciaire fédérale, Dr. John Zelezi. Et déjà le 29 janvier, il a écrit ce certificat qu'il n'y avait aucune retouche, aucune double lumière, double éclairage. Cette lumière était vraiment là. Sinon, elle n'aurait pas pu être touchée par l'appareil photo. Est-ce que c'est Frère Branham qui l'a fait? Non, c'est Dieu d'une manière surnaturelle qui a rendu témoignage. Ça, c'est mon esclave serviteur que j'ai envoyé avec ma parole. Et alors, l'affaire était déjà réglée. Et celui qui ne peut pas croire Dieu, qui ne puisse pas plus tard le culpabiliser quand il devra le juger, le condamner. Quand Dieu fait quelque chose, on n'a pas d'autre choix à faire que de croire. Car alors, nous avons affaire au témoignage de Dieu lui-même. Mais pas seulement avec des paroles, ou bien alors avec un évangéliste, ou bien avec un homme de Dieu. Non, au moment où Dieu, de manière surnaturelle, rend témoignage sur terre, d'une manière que cela n'est plus influençable, que ce soit par le prédicateur, ou bien par le prophète, ou bien alors par la foule, cela n'est pas influençable par qui que ce soit, mais que on sait que c'est de la souveraineté, c'est laissé à la souveraineté de Dieu lui-même, au moment. Dieu exige de nous que nous puissions ôter nos souliers et être attentifs à ce qui va être prêché et savoir que nous sommes dans un lieu saint, sur un sol saint. Alors que je suis en train de penser à ça et parler de ça, je suis en train de me rappeler que pendant le dernier grand voyage en Afrique, cela est venu chez moi. Je me rappelle, j'ai touché cette pensée de manière très démonstrative. Je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais je vais vous dire que j'ai enlevé mes souliers et je les ai jetés à droite et à gauche pendant la prédication. En parlant, hein, on peut parler et pendant qu'on parle et ôter ses souliers, n'est-ce pas? On est dans deux domaines et cela était puissant. Cela est venu sur moi, je devais le faire. C'était tellement puissant que les gens ont compris qu'au moment où Dieu, de manière surnaturelle, rend témoignage, comme cela s'est passé dans le service de Frère Branham. Alors, cela, la question n'est plus ma position en face de l'homme de Dieu, mais la question est là, ma position en face de Dieu. Et la plupart n'ont pas compris. Ils disent, mais comment tu penses de Frère Branham, etc. Non, ce n'est pas la question. Mais est-ce que tu crois Dieu? Est-ce que tu as compris que c'est Dieu qui fait ces choses? Ou bien est-ce que tu es sur une barque, un bateau, qui ne va même pas dans la direction dans laquelle Dieu va avec son peuple maintenant? Nous ne pouvons pas être reconnaissants aussi de ce que le Seigneur nous a accordé, cette grâce. De croire notre cœur, bien sûr. Nous n'avons pas cru non plus auparavant. Mais quand la confirmation vient, cette confirmation qui n'est pas influençable, qui vient de Dieu lui-même, qui est même avouée étant vraie par les incroyants critiqueurs. Et les croyants, qu'est-ce qu'ils font? Il jette cette photo avec la colonne de feu sur la tête de Frère Branham sur le sol et il dit, cela n'a rien à me dire. Je l'ai vu, cela n'a rien à voir à me dire, les croyants. Et alors que cela s'est passé, Frère Schmitt et Frère Rousse étaient présents par un prédicateur pentecôtiste. Et au moment-là, nous, en tant qu'hommes, nous ne pouvons rien produire, rien. Alors c'est mieux, on se lève et on sort et on part. Celui qui n'a aucune crainte, qui n'a pas de crainte devant Dieu et devant ce qu'il fait, il n'a aucune chance. La première chose, c'est la crainte devant Dieu. Comme le prophète Ésaïe pouvait dire, ceux qui tremblent en pensant à la parole de Dieu, la crainte est le commencement de la sagesse divine. C'est ainsi que nous pouvons être reconnaissants et reconnaître avec reconnaissance que le Seigneur, dans nos jours, comme du temps de Moïse, comme du temps du commencement du Nouveau Testament, aussi maintenant, de nouveau, s'est révélé. Bien sûr que le monde nous considère comme idiots. Il dit, mais c'est les plus graves fanatiques qui existent sur la terre que Dieu a créé. Hein? Vous pouvez me le croire. Stanislavski, il parle de nous. Ils disent que nous sommes des fanatiques. Mais nous nous sentons heureux. Comme Frère Branham disait une fois, tu es quelqu'un disait à Frère Branham, tu es fou. Il a dit, mais oui, je me sens bien comme fou. Amen, amen. Je me sens bien comme ça. Laisse-moi tranquille. Alors si nous sentons bien comme ça en Dieu, donc la chose est en ordre. Hein? Et les autres choses vont les saisir quand leur heure arrivera. Comme le Seigneur disait, n'est-ce pas? Vous êtes triste et pleurez, et les autres se réjouissent. Mais je vais vous dire, votre tristesse se changera en joie. Alors là, notre bouche sera pleine de rire et de louanges. Loué soit notre Dieu. Alors cela va se confirmer. Ce qu'on dit dans la... Celui qui rit le dernier rit le mieux. Et c'est comme ça que cela aussi sera. Ici, il est écrit encore. Être sanctifié n'est pas encore le signe. Le sang seul n'est pas encore le signe. La vie est le signe. Tout va ensemble. La rédemption, la justification, la sanctification. Mais ensuite, la vie de Dieu en nous est cette preuve. Ici, il dit encore, la vie est la preuve. La vie est la preuve. Votre vie a disparu. Vous êtes mort. Votre vie est morte. Vous êtes maintenant caché avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3, scellé par le Saint-Esprit. Les sentiments, l'esprit qui était en Jésus-Christ est maintenant en vous. Philippiens 2, 5. Christ, la Bible et la parole de Dieu sont une seule et même chose. Une union parfaite. Dieu dans sa parole. Dieu dans son peuple. Par son esprit. Une harmonie divine est rétablie dans son église. Un accord total avec sa parole. Et l'onction de l'esprit vient sur nous pour produire tout cela. Cela continue encore ici. Dieu a mis la puissance sur les lèvres de Moïse afin qu'il puisse prononcer sa parole. Ce qu'il disait apparaissait. Amen. C'est ainsi que Frère Branham ici le souligne. Et ça aussi, nous le croyons de notre cœur. Quelqu'un pourrait dire avec raison, mais comment est-ce que cela doit arriver? Et la réponse est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur nous. Et la puissance du Très-Haut nous couvrira de son ombre. Et alors s'accomplira. En ce jour, ce ne sera plus vous qui parlerez, mais l'Esprit de Dieu qui parlera par vous, par votre bouche, par l'inspiration divine. Nous allons prononcer ce qui nous sera inspiré de prononcer et cela va s'accomplir sous nos yeux au moment où on le prononce. Frère Branham, n'est-ce pas, a eu plusieurs témoignages. Nous avons pu aussi les monter ici à Krefeld 2-3 fois que Dieu peut parler et Dieu peut révéler et peut nous dire ce que nous devons faire et ce que nous devons prononcer. Et ce qui est prononcé sous son ordre par l'inspiration du Saint-Esprit, ce qui est prononcé, cela arrive sous nos yeux au moment où c'est prononcé. Cela doit arriver parce que c'est la parole du Seigneur à ce moment-là. Mais Dieu fait qu'utiliser des lèvres humaines pour parler lui-même. Mais c'était comme ça avec tous les prophètes. C'était comme ça aussi avec les apôtres. Des lèvres humaines, et malgré tout, la parole de Dieu. Il est écrit encore ici. Oh, ça devrait plaire à nos cœurs, réjouir nos clairs. Nos cœurs, nous, en tant qu'église, épouse, nous devons l'appliquer. N'échouez pas à tout prix. N'échouez pas. Ne manquez pas cela, car le soleil est sur le point de se coucher. Reposez-vous ni jour ni nuit. Ne prenez aucun risque. Cela vous manquera, enfant. Cela ne suffira pas. Vous devez avoir le signe. Vous dites, je crois, oui. Je crois le message. Je crois au message. Cela est en ordre. Cela est bien. Mais vous devez avoir le signe. Écoutez, vous tous qui êtes ici réunis. Le signe doit devenir visible, sinon toute votre foi sera vaine. Vous avez une belle vie, vous menez une bonne vie, vous écoutez ce que la parole dit, vous allez à l'église, vous essayez de vivre dans la droiture. Tout cela est bien, mais ce n'est pas le signe, ce n'est pas encore le signe. Nous pouvons avoir tout et mettre en pratique, n'est-ce pas, tout ce qui est à notre pouvoir, être fidèle, aller à l'église et lire fidèlement la parole de Dieu, les brochures, les lettres circulaires, et prier, tout ce qui pourrait concerner notre vie de croyant. Mais il pourrait encore nous manquer une chose, c'est-à-dire la puissance qui vivifie, la puissance qui peut changer notre corps mortel, la puissance de l'enlèvement. Et ça, nous devons l'avoir. C'est pour ça qu'il est écrit, quand l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habitera dans vos corps mortels, alors l'Esprit de Dieu, vos corps mortels seront changés par son Esprit qui habite en vous. Comme l'homme de Dieu dit ici en insistant, ne manquez pas cela, ne prenez pas de risques, cela vous manquera. Nous connaissons Matthieu 25, n'est-ce pas, tous très bien. Un jour, cela entrera dans l'histoire et cela sera passé. Celles qui furent prêtes entrèrent et les autres, celles qui ont manqué de l'huile sont restées. Ceux qui ont manqué d'huile sont restés et ont frappé ensuite à la porte fermée et ont dit, laissez-nous entrer. Et la relation ici est avec l'époux, et l'époux vint, pas le fils de l'homme, mais l'époux, donc en relation avec l'enlèvement de l'épouse, voici l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Et tous sont allés à sa rencontre, étaient en train d'aller à sa rencontre. Et subitement il est dit que celles qui furent prêtes entrèrent, et les autres se sont tenus devant une porte fermée. À quel groupe tu veux appartenir? Question. À quel groupe voulons-nous compter? Voulons-nous nous compter? L'Écriture elle-même nous classe. Il est dit clairement que elles ont manqué d'huile. Et chacun sait que l'huile est... L'huile signifie le Saint-Esprit. Là, à cela appartient la révélation, l'onction, tout ce qui vient de Saint-Esprit. Mais l'huile, n'est-ce pas, est vraiment le Saint-Esprit quand il s'agit de symboles bibliques ou même de prophéties. Donc, comprenez bien de quoi il s'agit. Remarquez-vous bien cela. Pourquoi est-ce que Frère Branham a mis l'accent là-dessus et a souligné cela et a insisté que tous ceux qui sont venus à la foi, tous ceux qui ont cru, doivent être remplis de Saint-Esprit, que la parole de Dieu révélée en eux soit scellée. Oui, que l'œuvre de Dieu en eux soit achevée. Nous ne sommes pas en train de faire de la philosophie ici sur un message de Dieu. Nous avons compris quel objectif Dieu a relié à ce message, c'est-à-dire l'enlèvement, d'être enlevé auprès du Seigneur, et ensuite voir sa face. Ensuite, il est dit ici, par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps. C'est le corps mystérieux de Jésus-Christ. Pas une église, pas une dénomination dans laquelle nous sommes baptisés en un seul corps par un seul esprit. Et ça, nous avons eu déjà parlé de ça ici. Il n'y a qu'une seule église de laquelle le Seigneur dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Dans Hébreux, cette église est appelée l'église des premiers-nés. Christ était le premier-né au milieu de plusieurs frères. Et nous sommes les premiers-nés. Nous avons par la grâce de Dieu reçu le droit de naissance. Israël l'a abandonné, mais nous l'avons reçu. Et quand le temps arrive, Israël, dans son domaine de nouveau, sera pris et accueilli. Ici, il est écrit encore. Comme son esclave serviteur, permettez-moi de vous dire aujourd'hui à moins que le signe ne soit à la porte, sinon la mort spirituelle frappera et toutes les églises sont sur le point d'aller au conseil œcuménique des églises. Ils retournent tous au catholicisme. Seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau n'y entreront pas. Amen. Combien d'années sont passées depuis cette déclaration? Peut-être que cela me coûtera la vie un jour. Ce serait bien, ça je l'ai aussi dit, si je pouvais achever mon témoignage pour le Seigneur par le sacrifice, pour les sacrifices de ma vie, je serais encadré dans le groupe de ceux qui ont parlé au nom du Seigneur. Mais regardez aujourd'hui, pas seulement dans le Conseil mondial des Églises, mais tout retourne à Rome. Il n'y a qu'une seule Église qui s'oriente par le retour à ce qui est sorti de Jérusalem, à la parole, à l'endroit d'où la parole est sortie, Jérusalem. L'enseignement sortira de la montagne de Sion et la montagne et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Paul, après 14 ans, est retourné à Jérusalem pour comparer si ce qu'il prêchait était en accord avec ce que les apôtres dans l'Église primitive ont prêché. Qui ose aujourd'hui le dire ouvertement? Où se trouve le danger? Qui ose le dire et prévenir et avertir ce qui doit être dit? Et avertir d'où vient le danger et dire ce qui doit être dit? Et on doit le dire aujourd'hui, les gens ne le voient pas. Ils sont allés contre la lumière, c'est pour ça qu'ils ont été aveuglés par la lumière. La lumière peut avoir deux effets. Et en grande partie, c'est le cas. Si nous allons avec la lumière, marchons avec la lumière, dans la direction de la lumière, alors notre chemin sur lequel nous marchons est éclairé. Et alors nous passons de lumière en lumière, de clarté en clarté. En clarté et de vérité en vérité. Mais si nous allons contre la lumière, elle peut être si éclatante, et plus elle est éclatante, et plus l'aveuglement sera grave, donc l'éblouissement. Et alors nous restons aveuglés, et le restons parce que nous sommes allés contre la lumière. Et nous ne jugeons aucun homme. C'est encore le temps de la grâce, et tous peuvent encore revenir au Seigneur, s'ils n'ont pas péché contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit de Dieu, mais pas seulement les églises libres, aussi des évangélistes populaires, n'est-ce pas? Ne sont pas donné l'effort de sonder vraiment ce qui a été prêché, d'entendre dire, ils ont jugé. Et cela n'est pas possible. Les Saintes Écritures disent, comment est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui n'a jamais été entendu. Et Paul l'a dit. Je demande être entendu par Festus et Agrippas. Je demande être entendu par ces deux hommes. Nous voulons permettre aux gens de parler. Et ensuite, après les avoir entendus, nous allons constater que ce ne sont pas des faux docteurs, mais que ce sont nous-mêmes que nous sommes égarés et que Dieu a dû envoyer un prophète pour nous ramener sur le chemin droit, nous qui nous étions égarés. C'est ça le mystère qu'il s'agit aujourd'hui. Mais qui veut aujourd'hui, n'est-ce pas, revenir au Seigneur de ces grands, soi-disant, hommes de Dieu, de l'heure, qui d'eux veulent avouer qu'ils se sont égarés? Ce sera un blâmage devant le peuple, devant des millions de vrais, comme pour dire, reconnaître qu'ils n'avaient pas de connaissance parfaite. Mais que feront ces millions-là le jour du jugement? Ils vont accuser que ces hommes-là n'ont pas sondé la vérité et ne l'ont pas prêché. Et c'est peut-être raison que ils ont conduit les hommes en dehors de la vérité et dans l'erreur. Les ont retenus dans l'erreur. Comme nous l'avons dit, comme Rousse, le frère Rousse disait, nous avons été déterminés comme le petit troupeau à porter le propre de Christ et de tout notre cœur croire comme l'a dit l'Écriture. Ça n'a pas d'importance ce que les hommes disent de nous, sur nous. Ce qui est important pour nous, c'est le jugement de Dieu, ce que Dieu pense, ce que le Seigneur pense. Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi et de moi? C'est ça qui compte et c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, il est dit ici, citation, nous voyons la colonne de feu. Même la science a fait une photo. Nous voyons les signes de la fin des temps. Ils sont là. Alors, si vous ne me croyez pas, croyez au moins le signe, croyez la parole, car ces choses rendent témoignage. Elles rendent témoignage de ce que je vous ai dit. Si je vous disais pas la vérité, Dieu, donc il n'y aurait pas eu de confirmation divine. Dieu ne va jamais confirmer un mensonge. Dieu dit la vérité. Ses paroles confirment et rendent témoignage que je vous ai dit la vérité. Ce sont ces paroles-là qui rendent témoignage du message que je vous prêche. Pas seulement parce que l'ange, autrefois, au fleuve, le 11 juin 1933, a dit « Ton message sera précurseur du retour de Christ. » Pas seulement à cause de ça, mais parce que les œuvres elles-mêmes le prouvent. Et ça, je le crois. Aussi vrai que Dieu vit et qu'aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés. Je crois qu'autrefois, vers 14 heures l'après-midi, le 11 juin 1933, à la fin de la rue Sprint, je suis descendu. Je me tenais proche du pont que Frère Branham avait vu déjà à l'âge de 7 ans, que ce pont allait s'écrouler et qu'avec une partie du pont, combien de personnes allaient perdre leur vie? Combien? Qui connaît l'histoire? À quelle heure? Combien? 14 personnes allaient perdre leur vie. Je crois 14 personnes. Il a vu par une vision à 7 ans. Et combien d'années plus tard cela a été bâti? Le pont a été bâti 9 ans plus tard. Et quand cela est arrivé? Cela est arrivé exactement ce qui lui avait été montré à 7 ans. Une partie du pont s'est brisée et est tombée dans l'eau. Et exactement ces 14 personnes qu'il avait comptées ont perdu leur vie. À 7 ans, il avait reçu cette vision. Depuis sa naissance, tant qu'il peut s'en rappeler, c'était des visions qu'il avait vues. Un vrai prophète de Dieu. Un homme envoyé de Dieu. Avec un message qui serait précurseur du retour du Christ. J'espère que Dieu nous accorde, nous laisse trouver sa grâce devant sa face pour que nous soyons porteurs de ce message divin et que nous puissions l'apporter dans le monde entier avant le retour de Christ. Il est écrit encore ici, citation, « Si vous ne pouvez pas croire que l'ange a dit la vérité, alors croyez aux œuvres, car la Bible dit que ces choses-là allaient arriver à la fin des temps. Ces choses-là sont celles qui rendent témoignage. Elles rendent témoignage. Elles parlent. Ce sont elles qui parlent plus haut que mes paroles. Les œuvres. C'est sa parole qui rend témoignage de cette heure. Oh, quelle chose merveilleuse. J'espère que de nos bien-aimés frères et sœurs qui sont nouveaux, regardez ce que Dieu a fait dans le passé pour savoir ce qu'il a fait maintenant. Du temps de Daniel, un ange est venu, son nom était Gabriel, et l'ange a parlé à Daniel, à Jean celui de Patmos, un ange aussi est venu, et lui a montré par des signes, etc., ce qui allait arriver dans le futur à Zacharie. Un ange vint alors qu'il se tenait à la droite de l'autel des holocaustes. À Marie, un ange vint. Aux bergers, même une armée céleste vint. Ils ont chanté Et l'ange a dit à haute voix, aujourd'hui, vous êtes né Christ, le Seigneur, dans la ville de David. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans Hébreux 1? Il fait de ses anges, des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Hébreux 1, verset 7. Donc, les deux sont écrits. Dieu a ses anges au ciel et ses serviteurs sur terre, ses messagers. Et s'il veut dire quelque chose, il ne demandera pas d'abord le droit à quelqu'un. Il agira dans tout le futur comme il a fait jusqu'à maintenant, de manière souveraine. Sans demander la permission à qui que ce soit. Il n'y a qu'une chose qui compte. Heureux les hommes qui ne s'égrisent pas. Et aussi, dans Matthieu 4, dans l'histoire sur la tentation, dès le commencement, quand la tentation fut terminée, l'ange, des gens sont venus le servir. Le ciel n'est pas si loin que ça. L'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent, qui craignent Dieu. Dieu est présent dans les rassemblements des saints. Et ce serait le temps que des choses vraies, authentiques, surnaturelles dans l'Église du Dieu vivant aient lieu. Nous avons besoin d'aide de ces choses et nous croyons. Nous avons besoin du surnaturel et nous croyons que le Seigneur est le même et le demeure éternellement. Encore rapidement, nous allons venir tout de suite à la fin maintenant. J'ai entendu que ça va rester long, que le temps restera clair longtemps aujourd'hui. Vous devez vous aimer les uns les autres. Les croyants doivent se séparer du monde. Ne prenez pas comme ça, continuez pas à prendre les choses comme ça à la légère. Vous qui écoutez les bandes magnétiques, vous, hommes et femmes, écoutez. Si vous m'avez déjà cru une fois, croyez-moi maintenant. C'est le temps d'arrêter de se disputer les uns avec les autres. Arrêtez. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ. Vous, maris et femmes, le temps est arrivé d'arrêter de vous disputer. Aimez-vous, respectez-vous. Amen. Que l'un considère l'autre supérieur à soi-même. Dites que du bien des autres, de l'un de l'autre. Cela doit arriver à cette relation les uns avec les autres et communion avec Dieu et les uns avec les autres et parmi les croyants. Sans conflit. Dans Galates, Paul écrit, mais si vous mordez les uns les autres, regardez à ce que vous ne soyez pas engloutis les uns avec les autres. Mais qu'est-ce qu'il a dit là? Qui vous a ensorcelé? Vous avez eu un si bon commencement. Qui vous a retenu? Que chaque sorcellerie soit brisée, chaque droit de Satan soit ôté et délié. Que Dieu seul ait tout droit sur nous et qu'il le conserve. Et que tout le désordre cesse et passe, et toutes les incompréhensions, les conflits cessent. Et que toutes les calomnies cessent. Et que notre langue et notre vie et tout notre être soient sanctifiés pour Dieu. Et mis à son service. Que pensez-vous ce qui alors va arriver? On a besoin de l'atmosphère adéquate pour permettre à Dieu d'agir. Et pour cette raison, nous devons tous contribuer à cela. Nous devons comprendre que notre langue doit être circoncis. Nous devons comprendre que nos paroles peuvent avoir une conséquence qu'on ne peut plus réparer. Et nous devons comprendre que nous sommes déterminés plutôt à annoncer les merveilles de Dieu. Pour éviter que quelque chose nuise à l'Église, même si des esprits destructeurs sont à l'œuvre, nous savons sans demander le don de discernement que cela ne peut pas venir de Dieu. L'Esprit de Dieu va toujours consoler, guérir, soigner, encourager, bâtir, réconforter, jamais détruire, déchirer, diviser. Le Seigneur bâtit. Le diable veut détruire. Mais le Seigneur est venu pour briser, détruire les œuvres du diable, les œuvres de Satan, et bâtir l'œuvre de Dieu. Établir l'œuvre de Dieu. Nous continuons à lire. Rappelez-vous, ils ne sont pas venus se rassembler pour parler du message. Ils se sont rassemblés pour appliquer le sang dans la foi et apporter la preuve. Encore revenant à l'Ancien Testament. Revenant. Maintenant, très rapidement, ici, deux, trois passages. Il a montré sa puissance. Jean 14, verset 12 dit, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. » Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, la Nouvelle Vie, cela montre que Jésus a accompli chaque revendication que Dieu exigeait. Il a accompli toutes les exigences de Dieu pour faire de nous, et il a fait de nous des vrais fils et filles de Dieu. Sous le sang, il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1, il est écrit, c'est ainsi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ici, cela n'est pas adressé à ceux qui croient en lui, mais à ceux adressés à ceux qui sont en Christ Jésus. Et vous savez, pas seulement croire en lui, mais lui en nous. Et nous ensuite en lui. Sa parole en nous. Et nous dans sa parole. Il faut que cela devienne une union avec Christ. Pas croire en lui avec distance, mais lui habitant en nous, ayant pris sa demeure en nous. Ensuite, il dit, ici, ce ne sont pas adressés, ici, ce n'est pas adressé à ceux seulement qui croient en lui, mais ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Oh, si je pouvais maintenant prendre ce texte et encore prêcher 2 heures de plus. Plus de condamnation. Libéré du péché. Libéré des soucis de ce monde. Détaché. Plus de condamnation pour ceux qui, par un esprit, qui par l'esprit ont été baptisés dans un seul corps. Alléluia. Détaché des soucis de ce monde. Plus de condamnation. Ça, nous l'avons déjà mentionné, ce que Paul écrit dans Romains 8. Qui veut accuser les élus? Qui veut les condamner? Qui veut les condamner? Qui veut les accuser? Christ est ici. Qui les a justifiés? La justification divine par la foi en Jésus-Christ. Et là, on n'a plus besoin d'aider. Il n'y a plus rien à faire. Il reste que pour la personne de louer et exalter le Seigneur, de lui apporter la reconnaissance que nous lui devons. C'est en cela que le sang a produit son effet. Le Dieu du ciel vous a accueilli, vous a agréé. Sa vie est en vous. Vous êtes fils et fille de Dieu. Ce serait été bien si tous, à de telles citations, nous pouvions dire Amen. Nous dirions Amen. Cela va nous libérer intérieurement. Et nous ne le faisons pas seulement parce que nous le faisons. Nous le faisons par conviction de tout notre cœur. Nous disons Amen, oui, à ce que Dieu a dit et a fait. Et c'est peut-être la raison que nous disons Amen. Amen veut dire, ainsi soit-il. Mais pas seulement ainsi soit-il, mais c'est ainsi. Et parce que c'est ainsi, alors nous disons Amen. Je continue à lire. Il n'était pas seulement homme, mais il était l'homme Dieu. Et c'est comme ça que aussi les croyants ne sont pas maintenant seulement que des hommes, mais ils sont des fils et des filles de Dieu. Vous avez sa vie, la vie qui était en lui et qui est revenue, vous l'avez reçue, elle est revenue sur vous. Elle vous a changé, transformé d'un pécheur à un né de nouveau. Elle vous a fait sortir des églises et des dénominations. Et a fait de vous un chrétien rempli du Saint-Esprit. La vie de Dieu, maintenant, jaillit de vous comme des étincelles jaillissent d'un enclume pendant que vous êtes plein de vertu, d'amour, de joie, de paix, de patience, marchant, et que le Saint-Esprit agit et parle par vous. Qu'est-ce que nous devons dire là-dessus? Maintenant, nous pouvons dire, Seigneur, que cela soit ainsi avec nous. Parfois, c'est déjà avec nous comme nous le lisons, et parfois, ça doit encore le devenir. Mais les deux fois, nous avons une disposition positive sur ces choses parce que nous croyons Dieu. Nous ne laissons plus le doute nous souffler quoi que ce soit. Parce que Paul pouvait dire, parce que j'ai cru, je parle. Et parce que nous croyons le message divin, c'est pour ça que c'est important que nous parlons aussi librement de ce message. Encore rapidement, quelques phrases. Maintenant, voyez, la parole nous accorde la certitude de la promesse. Je me suis noté plusieurs écritures. Je pourrais, pendant toute la journée, prêcher là-dessus. La parole nous donne la certitude de la promesse. La parole, l'assurance de la promesse. La parole est la promesse. Et la parole est Dieu. Et la parole est parmi nous, au milieu de nous. C'est ainsi que nous devenons une partie de la parole. Et la parole en nous prend forme. Alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors tout cela devient une grande famille. Ça nous donne la certitude, l'assurance. Pourquoi? Parce que c'est une partie de nous-mêmes. Quel texte puissant! C'est en cela que l'assurance, la certitude de la promesse est contenue. Avons-nous tous entendu cela? Et avons-nous reçu cela? Croyons-nous de tout notre cœur? Ici, on n'a pas besoin d'y mettre une pression pour lever la voix. Non. Ici, Dieu, par sa parole, a de manière si forte parlé avec nous. Et nous croyons que la puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. Et elle est plus que capable pour justement produire l'effet de ces choses en ceux qui croient. Et produire l'effet des choses qui ont été promises en ceux qui croient. Croyez-vous tout cela? Vous croyez que Dieu veille sur sa parole et que sa parole s'accomplit? Alors, je vais vous lire encore le dernier passage ici. Le signe est la preuve que vous avez été rachetés et que vous avez été agréés, accueillis. Ici, il s'agit de croire et d'accepter la totale obéissance, l'obéissance totale à la parole de Dieu, entière à la parole de Dieu, vous donne le droit de recevoir le signe. Une obéissance entière, pas seulement en partie, pas seulement une partie, pas seulement obéir une partie de la parole, ou bien alors aller comme votre dénomination va, mais tout inclut, l'obéissance totale à toute la parole de Dieu qui est Christ et qui vous apporte en Christ. Que le Dieu Tout-Puissant puisse en nous bénir toutes ces paroles. Qu'il puisse en nous produire la foi et nous encourager, nous accorder du courage pour que nous puissions croire et nous placer sur, donc fouler le sol de la victoire de Golgotha et savoir que ce que Dieu a promis nous a déjà été accordé. Ça nous appartient déjà. Alors là, même les murailles de Jéricho peut se tenir devant nous. Nous avons la promesse pour le pays de la promesse. Et nous avons aussi écouté la parole de la promesse dans notre temps et nous l'avons cru. Et l'esprit de la promesse, nous l'avons reçu. Je vous demande, est-ce que nous ne voyons pas ici le contexte? Galates 4, chapitre 28. Tel que Isaac était fils de la promesse, comme Isaac, vous êtes aussi bien-aimé frère, enfant de la promesse. Loué soit le nom du Seigneur. Lui, à qui étaient les promesses, a hérité tout ce que Abraham avait. Les autres ont reçu que des dons, des cadeaux, et ont été renvoyés de la maison. Mais Isaac a été héritier de tout ce qui appartenait à Abraham. Et c'est ainsi que aussi nous terminons ce week-end qui sera pour moi très précieux pendant longtemps. Nous achevons ce week-end. Nous avons écouté des paroles précieuses. Nous les croyons de tout notre cœur. Et à la fin, nous verrons que Dieu accomplira les paroles de la promesse qu'il a données en son temps. Ce dont nous avons besoin, c'est ce qui est écrit dans Jacques 5. Bien-aimés frères, faites attention d'être patient comme le laboureur jusqu'à que la terre reçoit, le sol reçoit la pluie de l'avant et l'arrière saison. Nous avons à être patients jusqu'à que l'heure de Dieu arrive. Nous sommes ici. Et si Dieu veut faire quelque chose, nous nous tenons à sa disposition. Qu'il nous accorde un cœur qui n'est pas divisé, qui reste attaché à lui sans être divisé, sans être partagé. Un cœur obéissant, un cœur humble, un cœur rempli d'amour. Qu'il nous accorde l'obéissance et la foi pour le servir et le suivre. Pour pouvoir le servir et le suivre. Qu'il le fasse en nous, qu'il fasse en nous, selon sa parole, ces choses, que son nom soit loué et exalté. Amen. Je lis maintenant ces paroles de Marc 11, et je demande que nous puissions, dans la foi, les laisser entrer dans notre cœur. Marc, chapitre 11, à partir du verset 22. Jésus leur répondit, « Ayez foi en Dieu, pas en toi et en moi, ou bien en un prophète, mais ayez foi en Dieu. » Amen. Ayez foi en Dieu, au Dieu qui a créé le ciel et la terre, au Dieu Tout-Puissant. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, celui qui dit à cette montagne, élève-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doute pas en son cœur, mais qui croit que ce qu'il dit arrive. Celui-là aussi l'obtiendra. Pas ce que le prédicateur dit. Alors, tu avais dit qu'il n'a pas encore de foi. Mais au moment où la personne concernée, elle-même, prononce ces choses, alors elle a elle-même pris toute la responsabilité pour ce qu'elle dit. Et c'est ce qu'elle fait. Vous n'avez pas besoin de crainte. Dieu est tout-puissant. Dieu n'a jamais déçu quelqu'un. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Alors que Pierre disait autrefois, « Seigneur, à ta parole. » Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre n'a pas été confus. Nous ne pouvons pas être confus si nous prenons Dieu au mot. Nous voulons maintenant prier. Et pendant la prière, la foi va monter. Et pendant que la foi monte et elle a atteint les nouveaux hauts de l'assurance, vous pouvez prononcer ce que vous demandez. Alors faites-le. Confessez de vos lèvres ce que vous croyez de vos cœurs. Il faut que vous puissiez le dire, le prononcer, et vous l'obtiendrez. Il faut que cela soit prononcé. Et au moment, alors Satan ne pourra plus vous attaquer, vous retenir. Alors vous avez vaincu. Alors la parole est devenue votre témoignage. Ils l'ont vaincu à cause de la parole, de leur témoignage, et à cause du sang de l'agneau. Nous nous tenons sous le sang. La parole de Dieu est notre témoignage. Et l'Esprit lui-même rend témoignage de ce que la parole s'accomplit. Nous voulons maintenant, dans la foi, passer quelques moments dans la prière et prier. Nous levons ensemble nos mains, nous parlons nos voix, nos bouches, nos voix. Et pas crier, pas trop bas, pas trop fort, mais ensemble, de tout notre cœur, lever nos voix, ouvrir nos bouches, et ensemble, dans une harmonie merveilleuse, adorer dans l'esprit et dans la vérité. Alléluia! Gloire à Dieu! Seigneur, nous te remercions. Nous t'adorons, nous élevons ton saint nom. Alléluia, Seigneur, tu as parlé avec nous, tu t'es révélé à nous. Nous te remercions pour cela, ta parole, ton nom, les mystères, tu nous les as fait connaître. Bien-aimé Sauveur, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons. Tu as vu toutes les mains levées, les requêtes, tu les connais, les difficultés, les souffrances, les douleurs, les problèmes. Seigneur, les difficultés, Seigneur, les détresses ne peuvent jamais être plus grandes que celui qui secourt. Tu es plus grand que le problème. Oui, Seigneur, la droite de l'Éternel est élevée et tu es plus grand et plus puissant que les problèmes et tu conserves la victoire parmi nous et dans notre vie. Seigneur, que tu puisses te manifester maintenant. Accorde la foi pour prononcer ce dont nous avons, ce que nous avons demandé et ce que nous croyons dans notre cœur. Viens avec ta sainteté, avec ta puissance, avec l'onction de ton Saint-Esprit parmi nous. Alléluia! Que ton onction est sur nous. Ton esprit est puissamment ici parmi nous. Alléluia! Alléluia! Que tout ce qui respire exalte l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu. Seigneur, accorde la joie, accorde la paix, accorde l'assurance, la certitude, la foi, le courage. Alléluia. Accorde le Saint-Esprit, le feu divin, l'amour, la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté et tout cela dans le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu, mon Jésus, honneur soit à Dieu dans les cieux et la paix sur terre, dans les hommes de son bon plaisir. Mon Dieu, tu as des hommes ici sur cette terre sur lesquels ton bon plaisir se repose. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en raison de l'autorité de ta parole, en raison, en vertu du nom, de la puissance du nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Nous sommes rassemblés et unis ici devant ta face pour expérimenter ta parole comme une réalité confirmée. Et nous te remercions pour cela. Satan, sors! Tu as perdu tout droit sur le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, chaque lien est brisé. Les liés sont libérés et les malades sont guéris et les perdus sont sauvés. Car l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, se repose sur nous pour annoncer aux captifs la délivrance. Alléluia. Gloire et honneur. Gloire et adoration. Oh, à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Jésus.